Qu'est-ce que nous allons faire pour commencer? Nous allons faire une déclaration pour préparer notre cœur à recevoir la parole de Dieu. Je vous encourage, quand vous venez à l'église, de venir avec une Bible. Si vous n'avez pas une Bible cette fois-ci, c'est pas grave, on a des notes à l'intérieur de votre bulletin avec presque tous les versets que nous allons étudier aujourd'hui. Mais c'est une bonne habitude de prendre une Bible et d'amener une Bible et de suivre dans la Bible parce que la parole de Dieu est vivante. Combien de vous, vous croyez que c'est inspiré de Dieu? Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous aider à grandir et pour nous instruire dans la justice. Donc, on va faire notre déclaration, soit avec votre Bible ou avec vos notes. On va dire, voici ma Bible. C'est la parole vivante de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole vivante de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai à toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la semaine passée, nous avons commencé une série sur la force de l'unité. Et si vous étiez là, vous vous rappelez du fait que j'ai amené avec moi un bulletin téléphonique. Et c'est pas parce que j'avais besoin de faire quelques appels ou des recherches, mais c'est parce que je voulais vous montrer quelque chose. La parole de Dieu est claire que qu'est-ce que Dieu veut pour ses enfants, pour son Église et pour tout le monde, c'est que nous soyons unis. Et c'est que il veut aussi que nous fassions les efforts pour garder, pour maintenir, ou on peut dire pour conserver l'unité de l'esprit. Et vous vous rappelez la raison pour laquelle j'ai amené le bulletin, c'est parce qu'on voit que ce bulletin est fait, c'est fait en papier. Hein? Chaque feuille est fait en papier. Et c'est très facile de déchirer une feuille. Je ne vais pas déchirer ce livre aujourd'hui parce que ça, c'est un bulletin qui est quand même en bon état. Mais on a vu que c'est facile de déchirer une page. Mais quand on met toutes les pages ensemble, tout le monde est ensemble, c'est vraiment presque impossible de déchirer. Pourquoi? Parce qu'il y a une force dans l'unité. On voit que quand nous sommes ensemble, le diable ne peut pas venir nous déchirer. Il ne peut pas déchirer notre mariage. Il ne peut pas déchirer nos relations avec nos enfants. Il ne peut pas déchirer notre Église. Sa stratégie, comme on a vu, c'est de venir et de trouver un couple, une relation, une Église qui est vraiment dans l'unité de l'esprit, qui sont liés ensemble. Et il sait que s'il veut vraiment faire du mal, s'il veut détruire, la seule chose qui va marcher, c'est qu'il faut qu'il vienne et commencer à glisser les petites semences de division. Et s'il est capable de diviser un couple, diviser une église, là, il est en mesure de faire beaucoup de dommages. Vous êtes d'accord? Mais si on résiste au diable et si on fait les efforts pour conserver l'unité de l'esprit, le diable ne peut rien faire pour nous détruire ni pour nous déchirer. Amen? Et c'est pourquoi on voit combien c'est important de conserver l'unité de l'esprit. Il y a une force dans l'unité. Et aujourd'hui, et probablement la semaine prochaine, nous allons voir un peu plus, selon ce sujet, les choses pratiques, les conseils pratiques de qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder, pour maintenir, pour conserver l'unité de l'esprit, afin de ne pas donner place au diable et afin de pouvoir tenir bon malgré tous ces desseins et toutes ces attaques. Donc, si encore vous avez votre Bible, je vous invite à aller avec moi en Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Et on va lire ici à partir de verset 2. Éphésiens, chapitre 4 et verset 2. Encore, n'oubliez pas que c'est pas la parole du pasteur, c'est la parole inspirée de Dieu. En fait, moi, je vais reculer un petit peu en verset 1 qui dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, tout le monde dit humilité, et douceur, tout le monde dit douceur, avec patience, tout le monde dit patience, hein, vous supportant, tout le monde dit supportant, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. J'aime bien la parole vivante qui dit qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels, portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés dans, les uns les autres dans l'harmonie et la paix. Car vous faites tous partie d'un seul corps régi par un seul esprit. Donc on voit que le fait que nous sommes unis ensemble, c'est vraiment grâce à l'action et à l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose naturelle ni normale de voir les personnes de différents arrière-plans, avec différentes personnalités, tempéraments, avec les dons différents, avec les goûts différents. Ce n'est pas normal de mettre tous ces gens de personnes si variées, si différentes ensemble et de les voir vivre dans l'harmonie et dans l'unité. Est-ce que j'ai raison? Hein? Vous qui êtes mariés, vous savez que c'est pas normal, c'est pas naturel, c'est pas une chose qui arrive du jour au lendemain qu'un couple devienne complètement un et harmonieux dans tous les domaines. C'est pas une chose qui arrive du jour au lendemain. Est-ce que j'ai raison? Ça prend du temps. Mais on voit que dans le corps de Christ, c'est vraiment une œuvre surnaturelle. Le Saint-Esprit nous a liés ensemble. C'est-à-dire que, surnaturellement parlant, c'est normal pour les chrétiens d'être dans l'unité. Amen? Ce n'est pas normal que les chrétiens ne soient pas unis. Ce n'est pas normal qu'ils soient divisés. Mais la Bible dit quand même, essayez-vous de conserver, de garder l'unité de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'ennemi va faire tout son possible pour venir nous séparer, nous diviser dans le but de nous déchirer. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Et ici, nous avons une des meilleures illustrations qui existent de l'unité. Parce que Dieu nous donne l'exemple du corps physique, du corps humain, il compare le corps physique à son Église. Il dit que vous faites tous partie du même corps. Hein? Le corps de Jésus-Christ est supposé d'être uni. Et il y a une force quand le corps reste ensemble. Quand le corps est divisé, quand il y a des chicanes, le corps perd sa force et devient faible. Mais quand le corps est bien uni, on est fort et on peut tout faire. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Amen? Hein? Et c'est ça qu'on veut. On veut garder, maintenir, conserver l'unité de l'esprit dans nos couples, au travail, dans l'église, dans n'importe quelle relation. On veut conserver l'unité de l'esprit. Mais on va voir aujourd'hui cet exemple du corps physique. Et on va voir combien c'est important de garder l'unité dans le corps. 1 Corinthiens chapitre 12, regardez avec moi 1 Corinthiens 12, on peut y aller dans nos Bibles, et c'est aussi dans vos notes. 1 Corinthiens chapitre 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Autrement dit, un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. On voit que la volonté de Dieu, c'est de mettre les personnes de tous ces arrière-plans, les grecs, les juifs, hein, ceux qui ont de l'éducation, ceux qui n'ont pas d'éducation, ceux qui ont la peau noire et ceux qui ont la peau blanche, peu importe les différences, Dieu veut nous mettre ensemble pour que nous formions un seul corps. Et c'est incroyable qu'est-ce qu'un corps peut faire quand le corps est ensemble. En fait, j'ai lu quelque chose l'autre jour et je voulais partager ça avec vous parce que des fois on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez eu dans le passé l'impression que vous ne faites pas grand chose dans la vie? Hein, des fois, les personnes, ils pensent, mais qu'est-ce que je fais qui compte pour le Seigneur? Je ne fais pas grand-chose dans la vie. Laisse-moi vous dire, vous faites beaucoup. Juste au niveau et plan physique et naturel. Déjà, vous faites beaucoup juste dans un espace de 24 heures. Et si vous ne le croyez pas, écoutez, que si vous êtes un adulte avec un poids moyen, voici ce que vous allez faire en dedans de 24 heures. Et, écoutez bien. Votre cœur va battre 103 689 fois juste dans 24 heures. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Votre sang va voyager 280 millions de kilomètres. 280 millions de kilomètres. Je sais qu'on a un chauffeur de camion ici, Pierre, et il fait pas mal de routes. Mais peux-tu imaginer faire 280 000, millions de kilomètres dans 24 heures? Ça serait comme presque impossible, n'est-ce pas? Mais là, le sang qui coule dans vos veines, ça va couler et ça va couvrir 280 millions de kilomètres dans 24 heures. Quelque chose, n'est-ce pas? Hein? Vous allez respirer 23 040 fois dans 24 heures. Vous allez respirer 438 pieds cubiques d'air. Vous allez manger en moyenne de 3,25 livres de nourriture. Il y a quelques-uns qui mangent plus que ça. Il y a d'autres qui vont en manger moins. Vous allez boire 2,9 litres, je pense, de liquide. Vous allez éliminer 7 huitièmes d'un livre de refuse. Vous allez parler 4800 mots, incluant plusieurs qui ne seront peut-être pas nécessaires. Et tous les hommes disent, oui, c'est surtout vrai à propos de ma femme. Non, dis pas ça, hein? Non, c'est pas. Mais vous savez, il y a une chose, il y a un fait, on va parler de ça tantôt. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et en général, les femmes parlent plus que les hommes. En général. En général. Et c'est pas mauvais, on va voir que c'est une force. C'est une chose que si c'est maîtrisé, ça peut être une bonne chose. Amen. Alléluia. Là, je suis en train de creuser un trou pas mal, hein. Ne quittez pas encore, mesdames. On n'a pas encore fini. Vous allez faire bouger 750 muscles. Vos ongles vont pousser 0,00046 d'une pouce. Vos cheveux vont pousser 0,01714 d'un pouce, OK? Et vous allez utiliser 7000 cellules dans votre cerveau. 7000 dans 24 heures. Est-ce que vous êtes fatigué après avoir entendu ça? Hein? Mais regardez, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Ça, c'est le corps que Dieu a créé dans le plan naturel. C'est incroyable qu'est-ce qu'un corps peut faire, n'est-ce pas? Juste en lisant ça, j'ai de la misère à comprendre les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Hein? Qu'il y avait juste une explosion quelque part et tout d'un coup, il y a un peu une cellule qui est apparue et qui est devenue un je ne sais pas quoi et qui a commencé à grandir, former les pattes, les queues. Et écoutez, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Il a créé le corps humain pour travailler ensemble. Et quand le corps est ensemble et tous les membres fonctionnent comme il faut, on est capable de faire beaucoup. Amen? Mais si on n'est pas ensemble, si nous ne sommes pas unis dans l'esprit, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que j'ai raison? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On a besoin de garder, de conserver, de maintenir l'unité de l'esprit. Première chose qu'on va voir, c'est qu'il faut que vous sachiez que le corps a besoin de vous. Si vous allez conserver l'unité de l'esprit, il faut savoir que le corps, je parle du corps de Jésus-Christ, a besoin de vous. Tout le monde dit « le corps a besoin de moi ». Moi, je suis convaincu qu'une des raisons pour laquelle on a des divisions dans les églises ou dans les couples, c'est à cause d'un manque d'estime de soi. Les personnes qui ont une basse estime de soi vont souvent semer de la division. Vous dites, ah ouais? Oui, c'est vrai. Une personne qui ne se voit pas comme Dieu les voit. Une personne qui ne comprend pas qui il est en Jésus-Christ, qui ne comprend pas qu'il est vraiment une créature merveilleusement créée, une personne qui ne comprend sa place, qui ne comprend pas sa place dans le corps de Christ, va, des fois, c'est pas une chose qu'il fait par exprès, mais il va finir par causer la division dans le corps de Christ. Amen? Et c'est pourquoi il faut que vous sachiez que vous êtes précieux à Dieu, que vous avez un rôle à jouer, que votre rôle dans le corps est essentiel et indispensable. Amen. Regardons le verset que nous avons marqué là. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? C'est ridicule, n'est-ce pas? Imagine que si nos membres physiques pourraient parler, et un jour on se lève le matin, et puis notre pied nous dit, mais tu sais, Ken, je suis désolé, mais je me sens pas vraiment utile. Il me semble que je fais pas grand-chose dans la vie, je suis pas une main. Donc pour moi, je suis pas vraiment important. Ça serait ridicule, n'est-ce pas? Hein? Imaginez, si là, il pourrait parler en disant que, hey, je ne suis pas un oreille, donc je ne sais pas si j'ai vraiment de valeur dans le corps. Ça, c'est ridicule. Nous avons, chacun de nous, nous avons une place dans le corps. Si vous êtes une main, nous avons besoin de vous. Amen. Moi, je suis content d'avoir deux pieds et deux mains, et non pas quatre pieds. Ça serait pas mal drôle ce matin, n'est-ce pas? Ça coûterait plus cher quand j'irais pour acheter les souliers aussi. Ou on pourrait peut-être sauver sur les gants. Mais vous savez, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on sache que nous avons une place dans son corps, nous avons un rôle à jouer et que notre rôle est important. Il est essentiel que je prenne ma place. Et si je ne prenne pas ma place, je vais faire tort au corps de Christ. Amen? Si mes pieds diraient, désolé, je ne travaille pas aujourd'hui parce que je ne me sens pas vraiment utile, j'aimerais mieux être une main, mais donc aujourd'hui je ne marche pas. Je serais vraiment mal pris. Vous êtes d'accord? Et c'est ça qui arrive dans les couples, c'est ça qui arrive dans les églises des fois. Les personnes disent, mais tu sais, moi, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas chanter, je ne peux pas jouer la guitare comme Pasteur Mathieu, je ne peux pas faire grand chose. Alors donc, ils ne font rien. Et le corps va souffrir. Amen? Hein? Parce que eux autres, ils sont doués dans d'autres domaines. Ils sont en mesure de faire d'autres choses qui sont essentielles, qui sont nécessaires et qui sont aussi importantes que jouer, chanter, prêcher. Amen? Le corps, il y a un seul corps, mais plusieurs membres, et chaque membre a un rôle indispensable à jouer. Donc, la première chose qu'il faut faire pour garder l'unité, il faut savoir que le corps a besoin de vous. Mais la deuxième chose, c'est de savoir que vous aussi, vous avez besoin du corps. Une manque d'estime de soi va causer de la division, mais de l'autre côté, l'orgueil va causer des fois encore plus de division. Il y a des personnes qui pensent, oh, je suis bon à rien, donc je fais pas grand chose, je suis vraiment pas un membre important du corps, et ils vont causer tort au corps. Mais il y a d'autres personnes qui pensent, mais moi, je sais chanter, je sais jouer, je sais prêcher, et là, j'ai vraiment un ministère important. Est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça dans le passé? Pas agréable, hein? Et donc, vous voyez que, une manque d'estime de soi va causer les divisions, mais aussi l'orgueil va faire la même chose. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21 dit, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Amen. On ne devrait jamais regarder les personnes qui font le ménage dans l'église ou qui changent les couches dans la pouponnière et penser que, vois-tu, eux autres, ils ont un ministère, mais c'est plus ou moins important. Le ministère qui est vraiment important, c'est le pasteur qui prêche en avant. Alors, ce qui est vraiment important, c'est les gens qui chantent devant tout le monde. Ça, c'est ridicule. Vous savez, imaginez si l'équipe de louange serait là aujourd'hui pour chanter, mais la salle est vide. Qu'est-ce que ça donnerait? Pas grand-chose. Ou imagine que si moi, je pourrais arriver aujourd'hui avec l'onction de l'Esprit pour prêcher la parole, prêcher un bon message, mais il n'y a personne ici. Personne. Je suis toute seule dans une bâtisse. Les lumières sont fermées parce que la personne qui s'occupe d'ouvrir les lumières et tout, personne n'est venu. Qu'est-ce que ça donnerait pour moi de me tenir ici et de prêcher un bon message de la parole de Dieu s'il n'y a personne? Qu'est-ce que ça donnerait? Rien. Donc, vous avez besoin du corps aussi, autant que le corps a besoin de vous. On ne peut pas dire que mon don est plus important que les autres. On ne devrait jamais faire des comparaisons. J'aime bien Romains 12, 3 qui dit, « À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. » Donc, si vous êtes apte à penser que votre rôle, votre ministère est plus élevé ou plus important que le ministère d'une autre, vous avez tort. Amen. Vous avez une place, votre place est importante, mais si on veut être vraiment, vraiment réaliste, le corps, vous avez plus besoin du corps que le corps a besoin de vous. Les deux sont vrais, mais il y a une chose. Un corps peut vivre sans un membre. Mais un membre ne peut jamais vivre sans le corps. Amen. Je peux découper ma main aujourd'hui et le corps va souffrir. Je ne serai pas capable de faire autant que j'étais capable de faire avant. Vous êtes d'accord? Mais je vais survivre quand même. Mais si je découpe la main la main, et je laisse la main dans une autre pièce ailleurs, dans une période de quelques heures, la main va mourir. Amen. Le corps peut vivre sans le membre, mais le membre ne peut jamais vivre sans le corps. C'est pourquoi on ne peut jamais dire, « Oh, mais regarde-moi, je suis vraiment quelque chose. » Vous n'êtes rien sans Jésus. Amen. Vous avez besoin du corps. Vous avez besoin, et c'est dans vos notes, de la tête, et vous avez besoin également des autres membres. Qu'est-ce qu'un corps peut faire sans une tête? Pas grand-chose. Est-ce que j'ai raison? Imaginez, hein? Un corps sans une tête ne peut rien faire. Et c'est pourquoi même... La parole de Dieu dit, au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Tu m'en dis, Jésus est la tête. Jésus a dit ceci en Jean 15, 5. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les serments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Amen. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'une véritable humilité. On ne devrait pas avoir une opinion qui est trop haute, trop élevée. On ne devrait pas avoir une opinion qui est trop basse ou non plus. Est-ce que vous comprenez? Il faut juste comprendre la vérité. Il faut savoir qui je suis. Si je suis un bras dans le corps de Christ, gloire à Dieu, je sais que je suis un bras et je sais que j'ai un rôle indispensable à jouer, mais je sais que sans la main, je ne peux pas faire grand-chose. Sans l'épaule, je ne peux pas faire grand-chose non plus. Et sans la tête, je ne suis rien. Amen? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Nous voulons garder, conserver l'unité de l'esprit. Alléluia. Vous avez besoin de la tête et vous avez besoin des autres membres. Car c'est de la tête que tout le corps... Lisons ce verset en Éphésiens 4, 16. Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance, soulignez le mot dépendance, que l'ensemble, bien lié et coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée, et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Amen. Le corps est dans l'impossibilité de grandir sans avoir l'assistance de chaque membre. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Des fois, combien de vous, vous êtes allés au cirque dans le passé, ou des fois, il y a des places, quand vous allez en vacances, ils vont avoir comme une annonce avec une image de quelqu'un avec un corps un peu drôle, mais il y a un espace où tu peux mettre ton visage, les gens vont faire votre photo. Vous savez de quoi je parle? Hein? Et soit on peut avoir un corps qui est vraiment musclé, ou on peut avoir un cœur qui est vraiment faible, ou un peu drôle, ou bizarre. Mais des fois, je pense qu'on est un peu comme ça dans le corps de Christ. Jésus est la tête, mais son cœur, si on regarde son cœur, ça ne va pas vraiment avec la tête. Et c'est pourquoi le corps est faible, le corps est divisé. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes et docteurs, pour le perfectionnement des saints. La Bible dit, afin que nous soyons tous afin qu'on parvienne à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite en Jésus-Christ. Jésus est la tête et la tête est vraiment parfaite. Est-ce que j'ai raison? Mais le corps a besoin de grandir. Le corps a besoin d'être bâti afin d'aller vraiment de pair avec la tête qui est Jésus. En fait, notre destinée, c'est de devenir parfait en Jésus-Christ. On va atteindre la mesure parfaite. On va devenir les hommes et les femmes adultes en Jésus-Christ. Et quand le monde nous voit, ils ne vont pas rire en disant, « Hey, c'est un peu drôle, une tête qui est merveilleuse de même, avec un cœur qui est drôle comme ça. » Non, ils vont dire, « Ça, c'est tout un homme qui est bâti, qui est fait et qui est parfait. » Amen. Ça, c'est notre destinée. Comment est-ce que ça va arriver? Il faut qu'on sache. J'ai besoin du corps, le corps a besoin de moi, j'ai besoin de la tête, j'ai besoin des autres membres. Parce que si, dans le naturel, je veux que mon muscle ici devienne de plus en plus fort et grand, qu'est-ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Mon muscle ne peut pas faire les exercices seul, est-ce que j'ai raison? afin de vraiment voir ce muscle ici bâti, ça va prendre l'assistance de la main, ça va prendre l'assistance du coude ici, ça va prendre aussi le cerveau qui va dire, bon, je veux que tu prends ce poids-là et je veux que tu fasses des exercices. Bouge ces muscles. Et chaque ligament, chaque muscle apporte quelque chose. Et c'est comme ça que le corps de Christ marche. Dans l'amour, on s'édifie. Dans l'amour, on se bâtit. Amen. Mais si vous ne faites pas ce que vous êtes supposé de faire, si la main dit, non, je ne veux pas aujourd'hui, je n'ai pas le goût aujourd'hui de faire les exercices, même si je veux, même si mon muscle ici veut, je ne peux pas. Est-ce que j'ai raison? Donc, encore, on a besoin les uns des autres. On est encore. Tout le monde dit, nous sommes encore. Hallelujah. On va continuer. Juste voir plusieurs choses aujourd'hui. Trois conseils pratiques de qu'est-ce que nous pouvons faire. Hallelujah. En sachant que le corps a besoin de moi, en sachant que moi j'ai besoin du corps, qu'est-ce que nous allons faire pour garder et conserver cette unité, pour que le corps fonctionne bien ensemble? Amen. On va lire en chapitre 12, de verset 17 jusqu'à verset 20. Si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Tout le monde dit plusieurs membres. Vois-tu, la première chose qu'il faut faire si on veut vraiment garder l'unité de l'esprit, c'est qu'il faut respecter les différences dans le corps. Amen. Tout le monde dit vive les différences. Avez-vous remarqué qu'il y a différence entre nous? Vous n'êtes pas comme moi, je ne suis pas comme vous. Vous qui êtes mariés, avez-vous remarqué qu'il y a des différences entre vous et votre femme ou vous et votre mari? Hein? Ça, c'était votre occasion de dire amen. Il y a des différences. Juste sur le plan naturel, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Les femmes ne sont pas comme les hommes ne sont pas comme les femmes. On ne pense pas de la même façon, on n'est pas bâti de la même façon physiquement, on n'a pas le même genre de hormones qui coulent dans notre système. Est-ce que j'ai raison? On est différent. Notre façon d'analyser les choses, c'est différent. Mais vois-tu, au lieu de regarder les différences et d'être vraiment frustré, on devrait apprécier les différences et respecter les différences. Dans le fond, je suis content qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Amen. C'est fait comme ça. Dieu a planifié comme ça. Je ne voudrais pas passer ma vie avec un homme. Je suis supposé de passer ma vie avec une femme. Et je dis, vive les différences. Amen. Imaginez si tout le monde avait le même don. Tout le monde avait la même personnalité. Ça ne marcherait jamais. On va parler de ça dans notre cours la semaine prochaine, Découvrir la vie comme son serviteur. On parlera de différents tempéraments et personnalités. Mais on est différents. On a des personnes qui sont extroverties et on a des personnes qui sont introverties. Est-ce que j'ai raison? Imaginez, si tout le monde était extroverti, le monde serait une place assez bizarre. Hein? Et on manquerait pas mal d'ordre aussi. Parce que les gens qui sont extravertis sont souvent mal organisés. N'est-ce pas vrai? Mais les personnes qui sont introverties, pas toujours, mais souvent, sont hyper organisées, ordonnées, toutes les choses sont à leur place, mais le monde serait pas mal plat des fois aussi, n'est-ce pas? Tout serait organisé, mais rien ne se passerait. Amen. Ça prend, pourquoi? Parce que ça prend les personnes pour partir les choses, pour commencer les choses, et d'habitude, c'est les gens qui sont extravertis qui vont dire, hey, j'ai une idée, on y va, on va faire une nouvelle chose. Mais ça prend les autres personnes qui sont plus réservées, plus calmes, plus réfléchies, plus organisées pour dire, OK, on va le faire, mais voici comment on va le faire. On va mettre telle et telle et telle chose en ordre, et là, ça va fonctionner. Amen. Ça prend les deux. Ça prend les différences pour que l'orchestre face du bon musique. Imaginez si dans un orchestre, il n'y avait que des violons ou que des clarinettes ou quoi que ce soit, ça serait plate, n'est-ce pas? On a besoin des différences et on a besoin de respecter les différences chez les autres. Hein? Et, mais on a une tendance, au lieu de respecter les autres, de les critiquer. Mais vois-tu, dans l'unité, on n'est pas obligé d'avoir l'uniformité. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. Regardez quelqu'un et dire à la personne à côté de vous, l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Amen. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est une bonne chose d'avoir la différence? Naturellement, verset 7 de Éphésiens 4 dit, naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier. Celui qui a la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse. Amen. L'unité n'exclut pas la diversité. Vive la différence. Deuxième chose qu'on est supposé de faire, c'est de supporter les faiblesses de chaque membre du corps de Christ. Combien de vous, vous savez que vous avez une certaine force dans votre vie et vous avez également certaines faiblesses? Amen? Mon nez a certaines forces. Mon nez est capable de sentir les choses. Et j'aime ça quand j'entre dans la maison et ça sent bon. Je dis, ah chérie, qu'est-ce que nous allons souper? Ça sent bon. Amen? Et des fois, notre nez, parce qu'il a une certaine force, il peut détecter d'autres odeurs aussi. C'est où sont les couches? C'est le temps de changer une couche maintenant. Vois-tu? Mais c'est une certaine force que mon nez a. Mais ma main ne possède pas cette même force. Je ne peux pas sentir les choses avec ma main. Mais ma main peut faire autre chose. Je peux prendre un marteau avec ma main. Je peux... donner un coup avec la main, pas quelqu'un ici, bien sûr, non. Je peux imposer ma main sur les malades pour qu'ils soient guéris. Amen. Ma main ne peut pas sentir. Il y a une faiblesse qui est là. C'est différent, mais c'est trop faible dans ce domaine. Je ne peux rien sentir avec ma main. Mais imaginez si, encore, imaginez, je ne pourrais pas prendre un marteau avec mon nez. Essayer de bâtir quelque chose avec mon nez. Ou essayer de donner quelqu'un un coup avec mon nez. Ce serait un peu ridicule, n'est-ce pas? Ou essayer d'imposer mon nez sur les malades pour qu'ils soient guéris. Ce serait un peu drôle, bizarre, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que des fois, la main va mépriser le nez parce que la main n'est pas capable. La main n'est pas capable de faire qu'est-ce que le nez veut faire, etc., etc. Et, écoutez, c'est pas comme ça que ça marche. On ne devrait jamais mépriser le nez parce qu'il ne peut pas faire telle chose. On ne devrait jamais mépriser la main parce qu'il ne peut pas faire telle chose. On devrait supporter les faiblesses et on devrait respecter les différences. Amen? Vous avez des faiblesses, moi j'ai des faiblesses, mais si, et la Bible ne dirait pas « supportez-vous les uns les autres » si ça ne serait pas nécessaire. Ce verset me montre une chose, c'est que dans la vie chrétienne, nous aurons l'occasion d'être offensés ou d'être frustrés avec les autres membres dans le corps. Amen? Mais la Bible dit non, ne soyez pas frustrés, supportez les faiblesses des autres. Respectez les différences et supportez les faiblesses. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre verset que j'aime bien dans ce sens qui dit, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Si vous avez une Bible, regardez un autre verset que je n'ai pas mis dans vos notes, Colossiens 3, 23. Colossiens 3, 23. Alléluia. Ça fait partie de ce sujet de supporter les faiblesses des autres. Éphésiens 3, 23 qui dit, alléluia, oh, pardon, j'ai dit, c'est Colossiens. Colossiens, oui, c'est ça. Bon, je pense que j'ai les bons versets là. Mais la parole de Dieu dit, ici en verset, c'est chapitre 3, mais je pense que j'ai peut-être mal marqué la référence, ça ne m'arrive pas souvent, mais ça arrive, qui dit de supporter les uns les autres, mais aussi et de vous pardonner réciproquement. Moi, j'ai mal marqué le verset. Et ça tombe bien parce que est-ce que vous allez me supporter maintenant que j'ai fait cette erreur? Moi, j'ai eu une faiblesse ce matin. J'ai mal marqué ma référence et je vais le trouver, je vais vous le donner une autre fois. Mais, pardon, c'est verset 13. Non, oui, c'est ça, exactement. Merci, Ginette. Il dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrée de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Ça ressemble beaucoup à Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas, qu'on a lu au début. Hein? Parce qu'on voit encore l'humilité, douceur et patience, et puis supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voulez-vous garder l'unité de l'esprit dans votre mariage? Il faut que vous marchiez avec l'humilité, avec douceur, avec patience, et il faut que vous soyez prêts à supporter les faiblesses de votre conjoint. Amen? Il y a certaines choses qu'elle va faire ou il va faire qui vont vous chatouiller, qui vont vous déranger. Mais il faut, la Bible dit, il faut supporter ces choses. Dans l'Église, il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui peuvent vous déranger. Vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas comme moi je l'aurais fait. Supportez-vous les faiblesses. Supportez-vous les uns les autres. Supportez les faiblesses en vous pardonnant réciproquement. Amen. Ça prend le pardon. Et comment est-ce que nous sommes appelés à se pardonner comme Christ nous a pardonné? Amen. Et comment est-ce qu'il nous a pardonné? Gratuitement, complètement, surnaturellement, on peut faire la même chose. Donc, numéro 3, on va respecter les différences, on va supporter les faiblesses. Et numéro 3, on va honorer tout le monde. Tout le monde dit honorer tout le monde. Alléluia. Savez-vous c'est quoi l'honneur? L'honneur, c'est de démontrer un respect, c'est de penser que l'autre personne est plus élevée que vous, de mettre les besoins, les désirs de l'autre personne au-dessus de vos propres besoins. J'aime tellement ce verset en 1 Corinthiens 12:23 qui dit « Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. » Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Donc, on voit que l'honneur va éviter la division. Amen? L'honneur évite la division, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça, c'est le plan de Dieu pour garder l'unité de l'esprit. Respectez les différences, supportez les faiblesses et honorez tout le monde. Si je vais honorer tout le monde, c'est-à-dire que même si je ne les comprends pas, même si je ne suis pas d'accord, je vais quand même chercher leurs intérêts avant de chercher les miens. Amen. Le meilleur exemple que j'ai entendu sur l'honneur, c'est quelqu'un qui est arrivé devant une foule des gens avec un violon à Stradivarius. Et je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais savez-vous c'est quoi? C'est un violon très recherché et très dispendieux qui coûte des centaines de milliers de dollars. Et il a dit, il a expliqué à cette foule des gens son violon, combien ça, c'était précieux, combien c'était coûteux, etc. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a dit avec des milliers de personnes dans la salle? Il a dit, je veux que tout le monde prenne ce violon entre leurs mains et qu'il le touche. Donc, ils ont commencé à passer ce violon qui valait des milliers et des milliers, des centaines de milliers de dollars. Et tout le monde prenait ça. Et savez-vous, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé avec le violon. Personne n'a dit, « Hey, lance-moi le violon, j'aimerais le voir moi-même. » Jamais. En fait, à chaque fois que quelqu'un recevait le violon, c'est comme, « Oh, wow, c'est quelque chose. » Et avec douceur, avec patience, hein, avec humilité, Prenez, je ne veux pas le garder trop longtemps. On devrait avoir le même genre d'attitude dans le corps de Christ. Amen. On devrait avoir autant de respect pour les gens qui font partie de Jésus que nous avons pour les violons ou pour les choses qui arrivent chez nous qui sont marquées fragiles. On devrait imaginer que chaque membre du corps a quelque chose sur le front qui dit fragile, manipulé avec soin. Amen. Et au lieu de critiquer, au lieu de blaster, au lieu de parler dans le dos d'autres membres, on va les élever, on va dire, « Wow, lui, il fait partie du corps de Jésus-Christ. » Amen. Savez-vous qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est la tête. Quand Jésus était sur la terre, il avait l'onction du Saint-Esprit sur lui sans mesure. Amen. Toute l'onction du Saint-Esprit était sur lui. Mais maintenant que Jésus est au ciel, il a donné une distribution, il a distribué à chaque membre du corps une mesure de son Esprit Saint. La même onction qui était sur Jésus est maintenant sur moi et sur vous. Mais j'ai une mesure et vous avez une mesure. Lui, hein, il fait partie de Jésus. Elle fait partie de Jésus. Ce que je fais à elle, je fais à Jésus lui-même. Et il faut avoir ce genre d'attitude. Monsieur, quand vous parlez à votre épouse, vous parlez à Jésus. Amen.
Mesdames, quand vous parlez à votre mari, vous parlez à Jésus. Il faut parler avec respect. Il faut parler avec honneur. Et savez-vous qu'est-ce que cela veut dire? L'effet que ça va avoir, c'est que ça va relâcher la puissance et l'onction de Dieu. Et les gens qui sont doués du Saint-Esprit vont être en mesure de manifester leurs dons. Jésus n'était pas capable de faire des grands miracles chez lui. Pourquoi? Parce que les gens ont méprisé le don. Ils n'ont pas honoré Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ils ont dit, ça c'est juste Joseph, le fils de Joseph. Je connais ses frères, je connais ses sœurs. Et Jésus était dans l'impossibilité de faire grandes choses parce qu'ils n'ont pas honoré Jésus-Christ. Amen. Savez-vous, c'est la même chose dans une église, dans un foyer. Si je démontre de l'honneur, le don qui est dans cette personne va être capable de se manifester. Il y a des dons qui sont représentés ici, mais qu'on n'a jamais vu en manifestation. Des fois, c'est parce qu'on manque de l'honneur. On dit, oh, mais ça, c'est juste Daniel. C'est juste André. Ça, c'est juste Ken. Ça, c'est juste Tania. Ça, c'est juste n'importe qui. Et si on fait, oh, ça, c'est juste n'importe qui, vous savez qu'est-ce que nous allons avoir? Juste n'importe qui dans l'église. Mais si on dit, ça, c'est un enfant de Dieu. Thérèse est vraiment enfant de Dieu. Elle est en Jésus, Jésus est en elle, et elle a reçu un don particulier du Saint-Esprit. Donc, wow! Honneur! Wow! Elle est avec nous aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Elle est ici avec nous. Quel privilège de l'avoir avec nous. Amen! Quel privilège d'avoir Daniel ici. Wow! Un don! Wow! Et dans cette atmosphère d'honneur, le corps va se bâtir, le corps va s'édifier, nous allons grandir, arriver à la maturité en Jésus-Christ et nous allons pouvoir faire beaucoup de choses ensemble, ensemble. Amen. On va se lever debout, on va prier ce matin. Alléluia. C'est un message simple, mais c'est un message puissant. Sachez que le corps a besoin de vous. Sachez que vous avez besoin du corps. Et sachez aussi, alléluia, que plus vous respectez les différences, plus vous supportez les faiblesses, et plus vous honorez tout le monde, plus on va pouvoir garder l'unité de l'esprit. On va faire une prière ce matin. Tu veux jouer? On va fermer les yeux. On va prier ce matin. Merci Père Céleste. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, que tu es là au milieu de nous. Seigneur Jésus, que tu es bon. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Et Seigneur, je te remercie que nous sommes, Seigneur, ton corps. Tu es la tête, nous sommes les membres en particulier. Le plus grand désir de notre cœur, c'est de rester unis, de maintenir et de conserver l'unité de l'esprit afin qu'on puisse aller de l'avant et faire des grandes choses ensemble. Ensemble, ensemble, nous allons faire des exploits. Ensemble, ensemble, nous allons faire, Seigneur, des choses merveilleuses pour ta gloire. Et avec tous les yeux fermés, j'aimerais donner l'occasion, comme je fais à tous les dimanches matin. On va tous prier, on va prier que le Seigneur continue à travailler nos cœurs pour qu'on puisse mettre ce message en pratique. Parce que nous ne sommes pas les auditeurs oublieux, mais nous sommes ceux qui mettent en pratique la parole. Mais peut-être vous êtes ici et vous dites, pasteur, je ne suis même pas sûr et convaincu que je suis dans le corps de Christ. Je ne sais pas, je n'ai pas l'assurance que je fais partie de son corps, mais j'aimerais faire partie de son corps. J'aimerais partager cette unité de l'esprit, cette force d'unité. Et si vous êtes ici ce matin et vous avez besoin d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous avez besoin de faire partie du corps. J'aimerais vous donner cette invitation. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. J'aimerais donner ma vie à Jésus. J'aimerais faire partie du corps de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, oui, prie pour moi. Je veux. Alléluia, on a eu des gens la semaine passée qui ont donné la vie à Jésus. Cette semaine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner la vie à Jésus? Sinon, on va tous prier cette prière. Père Céleste, je te remercie pour ton corps. Le corps a besoin de moi et j'ai besoin du corps. Je prends la décision aujourd'hui de respecter les différences, de supporter les faiblesses et de honorer tout le monde, afin de pouvoir conserver l'unité de l'esprit et aller de l'avant pour faire ta volonté. au nom de Jésus. Amen. On va chanter.